En 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les questions et conseils liés à la prévention tiennent chaque jour une bonne place dans notre émission. Cette sensibilisation en matière de santé s'articule autour de plusieurs axes fondamentaux comme l'activité physique, l'arrêt du tabac ou encore l'équilibre alimentaire. Mais cette alimentation équilibrée est associée pour beaucoup à des considérations qui semblent davantage liées aux normes sociales ou à l'esthétique qu'à des critères proprement sanitaires. Plutôt que bien manger, beaucoup comprennent rester mince, surveiller sa silhouette. Poids idéal, poids d'équilibre. À force d'entendre parler d'épidémie d'obésité, on en a presque oublié qu'être gros n'est pas toujours une maladie et qu'à l'inverse, pour certains, être obnubilé par la perte de ses kilos, eh bien ça peut rendre malade. Prendre conscience que les ennemis auxquels il faudrait plutôt s'attaquer sont davantage la sédentarité et les déséquilibres alimentaires, et peut-être surtout changer son regard sur les joufflus, les replets, les girondes, les plantureuses, les bien en chair, les rebondis, les charnus, les dodus, bannir les jugements et autres discriminations. Cette vision normative du corps dont les magazines féminins n'ont pas le monopole, puisqu'elle se retrouve jusque dans les cabinets de certains médecins. Et pendant cette émission, on va donc essayer de lutter contre un certain nombre d'idées reçues. En votre compagnie, docteur Jean-Michel Le Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. En ligne avec nous, Sylvie Benkemoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, dont les initiales forment l'adjectif gros. Et tout à l'heure, nous retrouverons au Bénin le docteur Victoire Aguet, médecin nutritionniste et enseignant-chercheur à l'Institut régional de santé publique de Ouida.
RFI.
Docteur Jean-Michel Le Serre, quand le chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille affirme que l'on peut être gros et en bonne santé, est-ce qu'il ne s'attire pas les foudres d'un certain nombre de ses confrères ?
Oui, peut-être, mais en fait, la réalité, c'est que il y a des situations extrêmement différentes. Le poids ne résume pas tout dans l'état de santé. En particulier, on sait que l'IMC ne suffit pas à définir le risque cardiovasculaire. Ça dépend beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple la répartition des graisses dans le corps, comme par exemple l'alimentation, l'activité physique. Beaucoup d'autres phénomènes sont à prendre en considération. De sorte que sans encourager l'obésité, on peut dire que tout excès de poids n'est pas forcément dangereux. Vous pouvez être mince, mais sédentaire, fumeur et mal manger, et finalement, c'est beaucoup moins bien.
Ces trois lettres que vous avez citées, IMC, donc indice de masse corporelle, est-ce que ça veut dire, docteur Le Serre, que vous remettez en question une sorte de dogme de l'IMC ?
Oui, alors je suis pas le seul à remettre en question. Récemment, la Société des endocrinologues américains vient aussi de faire un gros rapport là-dessus, en disant que l'IMC est un bon repère épidémiologique pour avoir une idée de l'évolution du poids et de l'obésité dans le monde, comparer des pays, comparer des périodes, mais que ce n'est pas un bon marqueur individuel. Les individus ne peuvent pas être résumés à un chiffre. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération. Alors bien sûr, quand on est très gros, c'est toujours un problème. Et c'est un problème extrêmement grave, donc il faut absolument éviter d'en arriver à ce stade-là si on peut. Mais entre les deux, il y a tout un champ de différence entre les personnes, et on ne peut pas, sur un seul chiffre, considérer que tout va mal.
On comprend bien cette singularité hein, des patients quand ils viennent vous consulter, docteur Jean-Michel Le Serre. Est-ce qu'on peut quand même définir un seuil, un moment à partir duquel le surpoids est jugé pathologique, dangereux ?
C'est difficile parce que ça n'est que statistique et donc la statistique ne doit pas enfermer les gens. Mais on sait que le seuil d'obésité classiquement, c'est 30 kilos par mètre carré, donc le poids sur la taille au carré. À partir de là, on peut commencer à avoir des problèmes, mais c'est pas pour autant que tout va mal. Si on a une bonne alimentation, une bonne activité physique, que le poids est stable, qu'on n'a pas d'autres facteurs de risque et qu'on est entre 30 et 35 kilos par mètre carré, alors ça dépend de la taille, bien entendu. Il y a des situations où si les gens peuvent se stabiliser à ce niveau-là, c'est bien. On sait cependant qu'au plus ça augmente, et au plus ça augmente depuis longtemps, au plus le tissu adipeux devient un tissu adipeux malade. Et donc, le caractère irréversible va commencer à s'installer. Et là, c'est vraiment un problème. La première mesure à prendre sera de ne plus aggraver le problème.
Quand vous dites tissu adipeux malade, docteur Jean-Michel Le Serre, ça signifie quoi, hein, pour faire bien comprendre à nos auditeurs?
Ça veut dire que, si vous voulez, l'excès de poids, c'est pas une accumulation de graisse sous la peau qui suffirait de réduire, soit avec de la chirurgie ou de la lipoaspiration ou liposuction ou par un régime. Ça veut dire que cette graisse, elle est anormale, parce qu'elle est trop importante, les cellules sont trop grosses, trop nombreuses, et sont infiltrées d'autres cellules qui sont des cellules inflammatoires qui rendent le tissu adipeux malade. De sorte que on a du mal à revenir en arrière. Et c'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles les gens se heurtent à des difficultés lorsqu'ils font des régimes. C'est-à-dire que le tissu répond pas bien. La graisse résiste, en quelque sorte.
Ça veut dire qu'il y a de la bonne graisse et de la mauvaise graisse?
Non, ça veut dire que chez les gens qui prennent trop de poids depuis trop longtemps, eh bien, ce tissu devient cette graisse, ce tissu adipeux, puisque c'est dans des cellules. Hein, les cellules deviennent malades. Et donc, ça devient difficile de revenir en arrière, d'où l'importance de la prévention, d'où l'importance aussi de savoir s'il faut vraiment maigrir, et d'où l'importance aussi de ne plus aggraver, et donc de rester stable. C'est déjà un progrès, parce que l'évolution naturelle du poids, c'est l'aggravation.
Et aussi le problème des comorbidités, ces maladies associées.
Bien sûr. Alors elles sont variables. Elles sont variables parce que si vous êtes une jeune femme de 30 ans et que vous avez essentiellement un surpoids du bassin, du bas du corps, que ce surpoids n'est pas considérable, il n'y a pratiquement pas de risque pour votre santé cardiovasculaire. Par contre, pour vos genoux, pour votre circulation veineuse, ça va poser un problème avec l'âge. Et donc, on voit très bien que chaque situation doit être examinée différemment. Et cette globalisation du problème, cette désignation, en quelque sorte, de la grosseur comme forcément mauvaise, n'a pas de sens.
Sylvie Benkemoun, vous n'allez pas contredire ce que vient de dire à l'instant le docteur Jean-Michel Le Serre, j'imagine. Hein. Votre association, ce groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, lutte contre ce que l'on appelle la grossophobie, discrimination propre à certaines sociétés, hein, pas du tout toutes les régions du monde. On va le voir très certainement plus tard dans l'émission avec nos auditeurs qui nous appellent notamment d'Afrique. On le comprend bien, c'est un jugement qui est lié à une certaine norme sociale.
Absolument. Absolument, mais effectivement, vous m'avez dit, je ne vais pas contredire, effectivement, je ne vais pas contredire, mais je vais dire qu'il y a quand même des aspects psychologiques, c'est-à-dire que là, on a beaucoup décrit les aspects
physiologiques,
mais il ne faut pas oublier les aspects psychologiques, et la grossophobie, ça fait grossir, c'est-à-dire que être dans un environnement hostile, ça favorise les troubles du comportement alimentaire et ça n'aide pas à maigrir.
Alors justement, Sylvie Benkemoun, comment s'exerce cette grossophobie? Dans quel contexte? Dans quelle situation?
Alors, elle s'exerce dans de nombreuses situations, c'est-à-dire qu'il y a déjà dans la famille. C'est-à-dire que la famille comprend bien que c'est à la fois un problème de santé, se rend compte que pour réussir, pour aller à un entretien d'embauche, pour être aimé à l'école, pour avoir des jugements favorables, il faut plutôt être mince, parce que être gros à l'heure actuelle, de l'enfance à la fin de la vie, c'est un problème d'hostilité de l'environnement.
Votre réflexion personnelle, Sylvie Benkemoun, sur cette grossophobie, sur les moyens de lutter contre cette discrimination. Et question personnelle, est-ce que vous avez déjà, par exemple, vous, dans le passé, répondu aux sirènes de la minceur en enchaînant des régimes avant de revenir sur cette idée, pour certains, cette idéologie de la silhouette?
Absolument. Bah, écoutez, moi personnellement, j'ai fait comme de nombreuses femmes de mon époque, de nombreux régimes. À la suite de ces régimes, j'ai pris beaucoup de poids. Et il y a très peu de temps qu'on dénonce les méfaits des régimes restrictifs. Mais nous, on a dans le corps inscrit le résultat de ces régimes. Et en plus, si vous voulez, l'environnement n'accepte pas les conséquences. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des situations qu'a bien décrites le docteur Le Cerf, c'est que au fur et à mesure des régimes, l'obésité s'installe, elle devient de plus en plus irréversible. Et maintenant, on dénonce les poids importants, alors que, si vous voulez, les médecins nous ont prescrit des régimes depuis longtemps.
Alors, cette grossophobie, Roger, qui peut s'exprimer à l'école, à la maison, sur le marché du travail, voire même dans la rue, et vous estimez même, Sylvie Benkemoun, vous avez d'ailleurs recueilli des témoignages en ce sens, que ce comportement discriminant, eh bien, on le retrouve y compris au sein du corps médical.
Alors, absolument. C'est-à-dire que le problème des médecins, c'est qu'à la fois, ils veulent soigner, ils sont bienveillants, et ils sont dans la société civile. C'est-à-dire que eux-mêmes sont confrontés à ce regard sur le poids et leur propre regard sur le poids. C'est-à-dire que à la fois ils ont des connaissances ou pas tant de connaissances que ça sur l'obésité, et eux-mêmes ne sont pas neutres dans ce qu'ils pensent sur le poids. Et j'ai eu l'occasion de faire des ateliers auprès d'étudiants en médecine, et ils sont très souvent, ils ont un dégoût, ils parlent de des odeurs des patients qui leur sont désagréables. Ils pensent que les personnes sont plutôt paresseuses, manquent d'intelligence, c'est-à-dire que tous les stéréotypes généraux, on les retrouve chez eux. Donc d'un côté, ils vont se dire qu'ils sont là pour aider les patients, et encore pas tous, et de l'autre, ils ont des préjugés sur les personnes qui sont en surpoids.
Alors cette
ou en obésité.
Cette stigmatisation, on a bien compris, un jugement désobligeant. Et pour revenir à la question des régimes, ces fameux régimes, et puis plus on va avancer vers l'été, plus on va en voir apparaître un petit peu partout, ça constitue un véritable marché, au sein d'ailleurs duquel s'illustrent un certain nombre de médecins. Certains des promoteurs vedettes de la minceur ont signé des livres, à travers des marques aussi, et ils ont été, pour certains d'entre eux, sanctionnés, mais pas sanctionnés pour des faits de discrimination, Sylvie Benkemoun, mais bien pour des dérives publicitaires.
Absolument, malheureusement, parce que effectivement, la seule façon de les juger par les conseils de l'ordre, ça a été de faire de leur médecine un commerce. Et si vous voulez, il y a actuellement pas suffisamment de mise en garde contre les méfaits de la stigmatisation. Et pourtant, dans la loi de santé publique de 2002, on dit qu'on ne peut pas dissocier la prise en charge de l'obésité de la prise en compte de la stigmatisation. Sauf qu'on ne dit pas comment on doit faire. Parce que c'est très compliqué de lutter contre les préjugés, parce que souvent ces préjugés sont inconscients. Donc il faut déjà que la personne admette qu'ils existent et les faire venir à la conscience pour que les praticiens, par exemple, luttent contre ces idées. Alors, au gros, on a une formation qui permet aux praticiens de prendre en compte ces idées inconscientes qui vont à l'encontre du mieux-être des personnes en difficulté avec leur poids.
Sylvie Benkemoun, docteur Jean-Michel Le Cerf, vous restez avec nous tout de suite. On donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur à nous joindre en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, c'est Siaka. Bonjour Siaka.
Bonjour madame.
On vous écoute Siaka.
Au fait, moi je suis légèrement en surpoids, je fais 1m76, 82 kilos. Mais je n'ai pas pris le problème de surpoids pour faire de ça un problème, parce que moi j'essaie de vivre ma vie, tranquillement, je fais mon sport 4 fois par semaine, et puis je me vois, je suis à l'aise, je suis tranquille dans ma peau, et j'avance tranquillement, voilà.
Quand vous dites que vous êtes en surpoids, Siaka, pourquoi ? Parce qu'on vous le dit ou parce que vous le ressentez vous-même ?
Oui, on me le dit, mais je le ressens aussi par mes rondeurs, etc. Voilà. Bon, je sens aussi que effectivement le poids doit être proportionnel à la taille, à quelque part. Bon, chez moi, il y a facilement 10 kilos qui sont en train de flotter, donc je ne fais pas de ça un problème. Je vis ma vie. Si je prends ça pour me stresser, je vais vivre mal. Alors, je fais du sport parce que dans le passé, j'ai fait des régimes, mais malheureusement, dès que vous stoppez un peu, le surpoids revient de plus belle. Alors, comme ça, je me donne au sport et puis je me libère la tête.
Vous dites que vous faites du sport. Est-ce que vous surveillez aussi votre alimentation sans faire de régime?
Oui, bon, je surveille un peu l'alimentation, mais je fais des faire avec. J'ai retiré certains aliments de chez nous, comme les sauces graines, les sauces d'arachide, qui sont beaucoup trop gras. Donc, en tout cas, j'ai éliminé beaucoup de choses, beaucoup d'aliments qui sont gras, hein, de mon alimentation. Et puis, j'ai vu que ça va.
Siaka, voilà pour votre témoignage. Est-ce que vous avez une question au docteur Jean-Michel Lecerf, justement, sur votre état aussi bien de poids que votre état de santé ?
Oui, j'ai une question. Je voulais demander au docteur comme ça, est-ce que, en plus du sport et du régime, est-ce qu'il y a une autre solution, à part ces deux solutions, pour diminuer un peu le poids ?
Docteur Lecerf.
Non, je pense que vous faites à peu près ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est rester stable, que votre poids n'augmente pas. Pour cela, il faut pas faire de régime, ça c'est sûr, parce que c'est pas bon, mais il faut pour autant être attentif à avoir une alimentation variée, à manger quand vous avez faim, à pas manger quand vous n'avez pas faim, à arrêter de manger quand vous êtes rassasié, donc être un petit peu à l'écoute de votre corps, attentif aux sensations que votre corps vous dicte, et puis pour cela, respecter des choses aussi simples que des rythmes, un sommeil, une activité physique, bien entendu, qui vont beaucoup vous aider à réguler spontanément votre alimentation sans que ça soit une contrainte. Pesez-vous de temps en temps pour savoir que votre poids n'augmente pas. Et puis, bien sûr, évitez le tabac qui est extrêmement mauvais parce que il rajouterait un point négatif pour votre santé. Et en plus, le jour où on arrête, on a des risques de reprendre du poids. Donc, voilà les bons conseils que vous pouvez continuer à suivre.
Voilà ces conseils pour votre hygiène de vie. Merci beaucoup, Siaka, de nous avoir appelé d'Abidjan. On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo, la ville de Bondo, d'où on rejoint Sylvie. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je vous ai appelé, je suis à l'écoute de la RFI pour ma santé, je suis en surpoids, alors je voulais vraiment réguler mon poids, diminuer un peu le poids parce que j'aimerais que je sois à 90 kilos, j'ai tenté des régimes par-ci, par-là, mais il n'y a pas assez de solutions.
Votre poids et votre taille, Sylvie ?
J'ai 160 cm de taille, j'ai 120 kilos.
120 kilos, est-ce qu'aujourd'hui vous faites de l'exercice physique?
L'exercice physique, oui, je me promène un peu le matin, c'est vrai pour aller au bureau, mais toute la journée je circule en moto.
Alors si on vous comprend bien, vous vous sentez plutôt bien dans votre peau avec ces 120 kilos?
Oui, j'aime ça bien, sauf que par mois j'ai un peu de palpitations, mais à part ça, j'avais une fois fait l'hypertension. Mais à part ça, il n'y a pas encore un autre problème.
Est-ce que le médecin vous dit qu'il faudrait justement perdre un petit peu de poids, justement, pour protéger votre santé?
Oui, le médecin m'en a fait déjà parler.
Et il vous a conseillé quoi, précisément?
Il m'avait conseillé de diminuer le sel, le sucre et le grain et l'huile.
Et est-ce que, justement, à la cuisine, vous avez changé vos habitudes pour arriver à manger de façon plus équilibrée, moins grasse?
Oui, j'ai déjà diminué le sel, le sucre. C'est ce qui a fait que je puisse quand même maîtriser mon poids à 120. Mais pour diminuer au-delà de ça, je ne suis pas encore à mesure. Mais je continue avec ce régime-là, hyposodé, et puis j'ai diminué le sucre.
Alors Sylvie, qui a donc changé certaines de ses habitudes alimentaires, docteur Jean-Michel Lecerf, mais qui, on peut dire, plafonne à 120 kilos, qui s'inquiète un petit peu parce qu'elle a des petites palpitations. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Effectivement, c'est déjà un gros progrès, puisqu'elle nous dit qu'elle était montée à 135 kilos et plus qu'à 120, donc c'est bien. Ce qu'il faut, c'est qu'elle continue à faire des petits pas, des petits changements hein, à la fois, ce qu'elle réussit à faire sur les quantités, par exemple, sur l'équilibre alimentaire, sur son activité physique, par petites touches, en sachant qu'elle pourra sans doute pas revenir à un poids normal, mais déjà avec une réduction supplémentaire, mais progressive, de son poids grâce à des petits changements alimentaires qui doivent être positifs, en quantité, en qualité, on pourra sans doute diminuer encore un peu son poids, la stabiliser, peut-être vers 110 kilos, c'est possible. Mais je pense que malheureusement, elle pourra pas corriger entièrement son poids dans l'état actuel de nos moyens. On voit bien que la prévention est importante. Je la mettrai en garde contre des régimes excessifs qui entraînerait sans doute une aggravation dans un deuxième temps de son poids. Elle ne pratique sûrement pas assez d'activité physique, mais là aussi, il faut qu'elle y aille doucement, parce que comme elle est lourde, c'est pas facile. Et donc, peut-être que progressivement, avec une petite augmentation du temps de marche, avec une variation de ses activités physiques, elle pourrait encore progresser.
Voilà Sylvie, ses conseils, y aller sûrement mais doucement, les deux en même temps, pour que les choses changent tout en douceur, sans effet de yo-yo. Très bonne journée en RDC. On va prendre une autre auditrice en ligne du Cameroun, de Yaoundé, c'est Claudette. Bonjour Claudette.
Bonjour.
On vous écoute Claudette.
Oui, j'étais à 100 kilos, aujourd'hui je me retrouve à 95, je suis vraiment heureuse. Et j'ai fait partie le stress et le complexe en moi, parce que j'ai amélioré mon hygiène alimentaire, quoi.
Vous avez changé quoi dans votre alimentation?
Par exemple, la pâtisserie, je n'en prends plus trop. Et je prends beaucoup de fruits. J'ai éliminé les entremets. Voilà.
Et des boissons? Boissons sucrées, boissons gazeuses ou plutôt de l'eau?
Pas vraiment boissons sucrées, pas vraiment boissons sucrées. Je prends uniquement de l'eau, à moins de 3 litres d'eau par jour.
Et du côté de l'activité, voilà, et du côté de l'activité physique, Claudette?
Oui, ça c'est vraiment mon gros problème. C'est un gros souci pour moi. Je suis paresseuse, alors que j'aime bien le sport, j'aime bien faire des activités physiques, mais je suis très paresseuse.
Est-ce que vous marchez quand même un petit peu ou carrément vous êtes complètement sédentaire, vous ne faites rien?
Oui, je marche. Je marche beaucoup.
Et en fait, est-ce que vous aimeriez faire une activité physique, justement, pour essayer de changer un petit peu les choses, ou vous vous en sentez incapable aujourd'hui?
Bien sûr, j'aimerais le faire, mais la paresse qui m'anime ne me le permet pas.
Vous en êtes déjà consciente?
Chaque fois que je commence,
vous en êtes déjà consciente?
Chaque fois que je commence, je m'arrête.
En tout cas, de la bonne humeur. Gourmande, paresseuse et de bonne humeur, c'est déjà pas mal. Vous avez un bon moral, Claudette. C'est déjà pas mal pour la santé. Docteur Jean-Michel Le Serf, on peut quand même dire à Claudette, si elle est un peu paresseuse, faudrait peut-être qu'elle se force un petit peu, non?
Oui, alors bon, elle a une image négative d'elle-même et c'est sans doute pas une bonne chose, parce que les personnes en surpoids se jugent souvent par rapport aux autres et puis par rapport aux normes. Il y a beaucoup de gens qui sont minces et qui sont bien plus paresseux qu'elle, donc faut pas qu'elle se juge par paresseuse, faut simplement qu'elle comprenne que c'est bon pour elle, mais il faut qu'elle fasse un petit peu plus d'exercice, des choses qu'elle aime avec d'autres personnes en groupe, ça peut être tout à fait stimulant. Alors bien sûr, elle pose la question de savoir s'il est utile de faire du sport, est-ce que ça fait maigrir? Le sport fait pas maigrir, mais le sport aide beaucoup l'activité physique, d'ailleurs plus que le sport, parce que le sport c'est un peu particulier, mais l'activité physique aide beaucoup à stabiliser son poids, à avoir une bonne alimentation et à rester en bonne santé. Mais en soi, ça suffit pas. Bien sûr, il faut toujours une bonne alimentation, mais on voit qu'elle a déjà changé ses habitudes. Et donc, elle aura intérêt, sûrement pour continuer à améliorer, eh bien, à essayer de bouger un petit peu plus, mais quelque chose qui, puisqu'elle est quand même très fort dans le plaisir, quelque chose qui lui fait plaisir en même temps, quoi. Je pense que ce serait bien. En outre, il faut rajouter que l'activité physique, c'est pas forcément des choses très compliquées. Hein. On a parlé à plusieurs reprises de la marche. La marche régulière est une très 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 bonne activité. Et je crois que voilà, en faisant tout cela, elle va continuer à améliorer sa santé sans se déjuger.
Voilà Claudette, très bonne journée à Yaoundé. Sylvie Benkemoun, on a entendu les auditrices et les auditeurs de Priorité en Santé. Qu'est-ce que ces témoignages et ces questions suscitent chez vous ?
Alors plusieurs choses. Le premier témoignage, c'était le témoignage d'un homme. Il faut savoir que le regard de la société est différent pour un homme et pour une femme. Et quand il parlait de son problème, c'était lui par rapport à lui-même. Alors, effectivement, quand j'entends les témoignages de ces femmes, on a l'impression que la pression de l'environnement par rapport à la grosseur est moins forte en Afrique. Donc, je pense que ça, c'est déjà favorable. Le dernier témoignage montre que, en fin de compte, cette femme marche beaucoup. Donc, si elle marche beaucoup, c'est qu'elle n'est pas sédentaire et immédiatement, elle trouve qu'elle est paresseuse, donc elle est dans ce jugement, c'est-à-dire que dès que quelqu'un est gros, on a l'impression qu'il est paresseux. Et peut-être que quand elle dit « je marche beaucoup », peut-être qu'elle est aussi active que des personnes qui se jugent actives. Mais dans la mesure où elle a ce poids-là, elle se dit « bon, ben, je devrais en faire plus, si je ne fais pas plus, c'est que je suis paresseuse ». Donc on voit bien que le regard des autres et la normalité et la normalisation vont agir sur ce que les personnes pensent d'elles-mêmes. Et si elles ont un jugement négatif, ça ne va pas aider à se sentir bien dans sa peau. Parce que, en fin de compte, les témoignages qu'on a eus, on sent une joie de vivre, on sent des choses qui ne sont pas trop, qui sont pas trop difficiles. En fin de compte, j'ai l'impression que c'est un peu moins difficile que pour nous ici.
Alors justement, docteur Jean-Michel Le Cerf, chef d'un service de nutrition, est-ce que vous travaillez aussi sur cette fameuse déculpabilisation, la déconstruction des préjugés, y compris hein, intégrés par les personnes en surpoids, on l'entend dans les différents témoignages. Est-ce que c'est quelque chose qui revient lors de vos consultations ?
Oh, c'est absolument considérable et les gens se présentent toujours. Et Sylvie, que je connais très bien par ailleurs au gros, le disait tout à fait. Les gens se présentent toujours en disant bah, « moi, vous savez, docteur, j'ai pas de volonté, moi, je suis paresseux, moi, et en plus j'aime manger. » Donc, il se situe toujours un petit peu en difficulté et de façon négative. Et puis, les régimes aggravent leur idée négative d'eux-mêmes, leur mésestime d'eux-mêmes, parce que comme ils se confrontent obligatoirement à des difficultés pour des tas de raisons qui sont psychologiques, physiologiques, sociales et autres, ça renforce cette idée négative qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils sont pas comme il faut, qu'on les aime pas comme ils sont, etc. Donc il faut être déculpabilisé. Et de plus en plus, je pense que le problème des personnes en surpoids, comme de beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs, c'est que les gens ne s'aiment pas parce qu'on ne les aime pas. En fait, si vous voulez vous aimer, il faut que vous soyez aimé. Si on est toujours en train de vous faire des reproches, si on vous renvoie qu'une image négative, vous ne pouvez pas vous aimer parce que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas aimable. Et donc, la déculpabilisation, ça passe aussi par le regard que nous portons sur les gens. C'est extrêmement important. Et le praticien, le soignant, doit avoir un regard bienveillant, ce qui ne veut pas dire continuer à faire n'importe quoi ou ne vous occupez pas de votre alimentation, ni de votre santé, ni de votre activité physique, ni de rien du tout, pas du tout. Mais ce regard sur les gens change beaucoup l'idée qu'ils ont et les fait progresser.
Soigner sans juger. Vous restez avec nous, docteur Jean-Michel Le Cerf, Sylvie Benkemoun. On va se retrouver juste après une pause musicale avec Gossip. It's a cruel, cruel world to feast on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It's Heavy Cross, ce titre de Gossip en 2009 sur RFI, la voix de Bette Ditto hein, qui milite elle aussi pour l'acceptation du corps. On vous retrouve, docteur Jean-Michel Le Serre, avec nous en studio, chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, auteur de « À chacun son vrai poids », sous-titré « La santé avant tout », publié aux éditions Odile Jacob. Est toujours en ligne avec nous Sylvie Benkemoun, vice-présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, Le Gros, une association, vous le disiez tout à l'heure rapidement, qui dispense des formations. Vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur ces cours, ces séances pour apprendre aussi l'acceptation des autres?
C'est-à-dire qu'il y a des exercices, par exemple, pour aider les personnes qui rasent les murs et qui n'osent pas se montrer. Par exemple, pour marcher fièrement dans la vue des Champs-Élysées et se faire regarder sans honte, mais avec la tête haute. Donc, ne pas avoir cette honte de soi-même, la honte d'être regardé ou d'être discriminé, parce que le regard des autres est différent. Quand on soi-même, on ne montre pas qu'on a honte, qu'on est fier de soi. Je pense que le regard change.
Par exemple, justement, avec, on entendait tout à l'heure la voix de Bette Ditto, des femmes qui s'affirment grosses et belles, qui se montrent, qui n'hésitent pas à montrer ses rondeurs à l'inverse, y compris dans des tenues légères. Tout ça, c'est aussi important pour l'acceptation.
Oui, je pense, parce que si vous voulez, en fin de compte, aussi pour lutter contre les préjugés, parce qu'on a l'impression qu'une femme grosse, c'est plutôt une mère qu'une femme. Donc les femmes grosses veulent montrer qu'elles sont des femmes comme les autres et qu'elles sont séduisantes et qu'elles ne sont pas seulement des mamans gentilles qui ont des bébés dans les bras. Donc je pense que cette revendication de la féminité est quelque chose de très important, effectivement.
Alors on entend parler, docteur Jean-Michel Le Serre, d'épidémie d'obésité. D'ailleurs l'OMS emploie ce terme hein, en parlant de 650 millions d'individus concernés sur la planète. Est-ce que, pour vous, ce terme d'épidémie est bien approprié?
Oui et non. Oui, parce que l'épidémie, l'épidémiologie, ça décrit l'évolution d'une maladie dans le temps et dans l'espace. Et donc, l'évolution, c'est que ça augmente. Donc, on peut parler d'épidémie dans le sens où il y a une augmentation du nombre de personnes concernées par le surpoids et l'obésité. Non, parce que ça suggère que c'est contagieux et l'obésité n'est pas contagieuse. Ceci étant, elle est transmissible quand même. Elle est transmissible par les habitudes, par un certain nombre de facteurs sociologiques, psychologiques, comportementaux. Et donc, de génération en génération, les habitudes alimentaires et puis aussi le comportement peuvent être transmis de l'un à l'autre. Mais bon, restons simples, épidémie veut dire que ça augmente et qu'il faut donc prendre des bonnes mesures pour essayer d'enrayer cette évolution. Mais on voit très bien que les discours qui sont menés depuis des années et qui visent à désigner des coupables, à accuser les gens, à accuser les aliments, à accuser tout le monde, à accuser l'agroalimentaire, ne marchent pas parce que en fait, ils ne correspondent pas à la réalité.
Alors tout de suite, on va prendre la direction du Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne avec nous, le docteur Victoire Aguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, enseignante-chercheur à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida, donc au Bénin. Docteur Aguet, est-ce que chez vous, oui, comme on vient de l'entendre pour la France, le surpoids est assimilé dans la société à un état de mauvaise santé?
Bon, disons que globalement, contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, le surpoids est assez bien accepté. Et ne devient problème que lorsqu'il atteint un certain degré, par exemple l'obésité pratiquement morbide accompagnée de complications. En effet, actuellement au Bénin, près d'un adulte âgé de 18 à 69 ans sur 4 a des problèmes de surpoids et seulement 7,4% sont obèses.
Alors, une forte proportion de la population qui est concernée par le problème de surpoids. Malgré tout, du côté du corps médical, quel regard, docteur Victoire Haguet, tout à l'heure, on signalait avec nos invités au téléphone et en plateau qu'il y avait, y compris chez certains soignants, une forme de stigmatisation ou de discrimination. Est-ce que c'est la même chose chez vous au Bénin?
Pas exactement. Et justement, notre problème, c'est que les agents de santé ne sont pas suffisamment conscients des risques que courent les personnes qui sont en surpoids ou obèses.
C'est plutôt une pédagogie, inverse qu'il faudrait faire pour
voilà,
le Bénin.
Voilà, c'est ça le problème. Parce que un adulte sur quatre atteint de surpoids, 12,4% des adultes présentent une hyperglycémie. Et 26% sont hyper tendus. Ce n'est quand même pas négligeable.
Donc des problèmes de diabète et d'hypertension. Est-ce que, malgré tout, docteur Victoire Haguet, il n'y a pas chez les plus jeunes générations un certain culte de la minceur qui se diffuse, notamment par le biais des réseaux sociaux?
Justement, ça commence à aller. Et même quand on compare les résultats des enquêtes nationales, entre 2008 et 2015, on a observé quand même une légère diminution du surpoids qui est passée de 29% à 23,2%. Et de plus en plus dans les grandes villes, nous avons des groupes de sport, même au niveau des quartiers. Et en milieu rural, un effort commence à être fait pour conscientiser la population.
Avec justement cette politique de prévention, docteur Victoire Haguet, vers quelle cible, comment cibler les bonnes personnes, les personnes chez qui justement cet excès pose effectivement un problème, un risque sanitaire?
Oui, les personnes en réalité, c'est surtout les femmes. Oui, bizarrement, que ce soit la maigreur ou le surpoids, ce sont les femmes qui sont les victimes. Et sur le plan professionnel, ce sont ceux qui travaillent dans les bureaux. D'une façon générale, les fonctionnaires, la prévalence est relativement élevée chez les employés.
Merci beaucoup, docteur Victoire Haguet, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, enseignant-chercheur à l'Institut régional de santé publique de Ouidah au Bénin. On va vous donner la parole, Sylvie Benkimoun, avant de vous dire au revoir. Juste pour revenir à cette forme de paradoxe à laquelle on assiste dans les pays développés, l'industrie alimentaire, les grandes surfaces qui poussent à une forme d'hyperconsommation malgré tout, les intérêts économiques ne sont pas absents, on les comprend, ils sont là pour vendre, ce sont des commerçants, et de l'autre côté, une rigueur sanitaire et morale qui à l'inverse assimile bon appétit et gourmandise à une atteinte au corps, à l'environnement, une véritable difficulté pour les citoyens de s'y retrouver entre ces deux injonctions, on parle même peut-être d'injonctions paradoxales.
Absolument, effectivement, c'est une injonction paradoxale qui rend fou et qui développe de nouvelles maladies comme l'orthorexie, c'est-à-dire la maladie de vouloir manger sainement absolument et d'être angoissé. Les gens n'ont plus de repères, ne savent pas trop comment faire. Donc entre les règles diététiques anciennes qui sont balayées maintenant parce que on a pendant de nombreuses années accusé les graisses, maintenant on accuse le sucre et on arrive à des situations qui sont extrêmes. Et ces situations extrêmes créent de nouvelles maladies. Donc il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire les produits qui permettent d'aller vite. Il faut rien diaboliser. Le problème, c'est que en diabolisant tour à tour des aliments, eh bien les gens ne savent plus quoi manger. Ils sont angoissés et ne mangent plus parce qu'ils ont envie de quelque chose, mais en regardant les étiquettes, en se disant là il y a moins de calories, là il y a moins de gras, là il y a moins de sucre. Donc les signaux qui sont des repères d'équilibre sont perdus et sont remplacés par de l'angoisse. Il y a de nombreuses pathologies actuellement qui sont liées au fait de manger, de bien manger, de trop manger, d'avoir des compulsions. Et ce sont des maladies actuelles qui sont générées par tous ces paradoxes.
Merci beaucoup Sylvie Benkimoun. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. On vous retrouve, docteur Jean-Michel Le Cerf, et on va donner la parole à un dernier auditeur de Priorité Santé. Cet auditeur, c'est Fadi. Fadi qui est en ligne de Paris. Bonjour Fadi.
Bonjour.
On vous écoute Fadi.
Oui, en fait, j'ai un problème de support. Au départ, j'ai pesé 70 kilos dans les 75, je dirais jusqu'à 75 kilos, et je mesure 1m 68. Donc, en 2010, j'ai essayé de faire un régime qui avait un marché. Je faisais beaucoup de sport. J'ai perdu jusqu'à 23 kilos en espace de moins de 3 mois. Hein.
C'est énorme.
Oui.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que
parce
vous avez...
que j'étais allée jusqu'à... Je les ai perdus parce que j'étais allée jusqu'à 90.
Et vous, donc, avez... Où j'ai fait. Vous avez repris ces kilos, Fadi?
Oui, j'ai repris ces kilos. Et donc, j'ai repris ces kilos. Je faisais beaucoup de sport aussi. Je faisais beaucoup de marches et puis je faisais le sport en salle. Et donc, j'ai eu un problème au niveau de mon talon. On parlait des épines calcanéennes. Donc, c'était douloureux. Je ne pouvais plus courir. Et j'avais mal au genou, je ne pouvais plus faire de sport. Donc j'ai arrêté comme ça. Et j'ai commencé à reprendre mes kilos. J'ai commencé à les reprendre. Et donc j'ai aussi un début de ménopause. Et donc du coup, et l'inactivité aussi. Parce qu'en tout temps, j'ai perdu mon boulot. À force de rester à la maison, je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de grossir. Et là, je suis allée chez une diététicienne qui m'a donné un menu. Elle me donnait des menus. Et donc, normalement, je devais continuer avec elle. Il était question que je prenne... elle me disait combien de grammes j'allais manger, combien de morceaux de pain j'allais prendre, combien de ci. Et pour moi, ça devenait contraignant. Ça devenait contraignant, je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas. Et donc du coup, j'ai laissé tomber, je ne suis plus retournée chez elle. Et ça a continué comme ça, mes kilos. Je suis arrivée, là je vous parle présentement, je suis arrivée jusqu'à 105 kilos. Et là, j'ai pensé faire une opération pour pouvoir perdre mes kilos parce que je n'arrive pas à refaire le régime que j'avais fait. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression, Fadi, que les conseils qu'on vous a donnés n'étaient pas adaptés à votre personnalité, à votre mode de vie, à votre mode d'alimentation?
En fait, oui. Parce que déjà, j'étais quelqu'une qui avait... quand je travaillais, j'avais ça se passait très bien parce que je savais comment manger. Je mangeais normalement, je mangeais avec, comme on dit, j'avais je mangeais équilibré, vous voyez, je mangeais équilibré. Et donc, quand je suis restée à la maison, je n'avais pas les heures de repas. Je mangeais que quand j'avais faim. Et donc, du coup aussi, quand je suis allée chez la diététicienne, elle me disait même que je pouvais aller par exemple chez Picard, acheter un truc de 200 grammes au lieu de faire la cuisine et tout. Ça, si j'avais la paresse de faire la cuisine, je pouvais aller chez Picard, ne pas prendre plus de 200 grammes. Et je me disais, mais ça, c'est pas une vie pour moi.
Ça ne correspondait pas à votre façon de voir les choses. On voit en tout cas, docteur Jean-Michel Le Cerf, que être exclu de la vie sociale, on va dire, ne plus travailler, et en tout cas avoir des conseils qui ne correspondent pas à nos habitudes, c'est carrément contre-productif.
L'histoire de Fadi est tout à fait exemplaire parce que malheureusement elle reflète ce qu'on observe très très souvent, l'entrée dans les régimes qui va entraîner des troubles du comportement alimentaire, ne plus savoir s'il faut manger, s'il faut pas manger, s'il faut s'arrêter, avoir de l'angoisse, comme disait tout à l'heure Sylvie Benkemoun, par rapport à ce qu'elle doit manger, et donc c'est manifestement pas dans cette voie-là qu'il faut continuer. Et donc pour Fadi, puisque la prévention est derrière elle, malheureusement il faut qu'elle essaye de retrouver des sensations alimentaires normales, c'est-à-dire manger quand elle a faim, ne pas manger quand elle n'a pas faim, s'arrêter de manger quand elle est rassasiée, donc des choses simples, essayer de retrouver un petit peu une alimentation qu'on appellera intuitive, c'est-à-dire tenir compte de ses vrais besoins plutôt que de calibrer avec des grammes comme on lui a conseillé. Peut-être faudra-t-il réfléchir à la possibilité d'une chirurgie. Elle était inquiète là-dessus. C'est une solution de dernier recours qui n'est pas toujours mauvaise, mais qui va entraîner aussi d'autres contraintes. Donc, une situation qui est difficile, mais manifestement, on voit clairement que l'entrée dans les régimes a été pour elle extrêmement nuisible parce que ça fait fi de la régulation naturelle de notre alimentation en imposant à temps et à contre-temps des quantités, des aliments et finalement ça génère beaucoup plus de troubles qu'autre chose.
Voilà, Fadi, pour ce que pouvait dire de votre situation le docteur Jean-Michel Le Cerf, en tout cas essayez de vous écouter, de prendre soin de vous. Très bonne journée. Docteur Jean-Michel Le Cerf, un sujet, ce sera notre conclusion qu'on n'a pas abordé, ces restrictions qui n'attendent pas le nombre des années, la question de l'obésité infantile, avec justement, dans certains cas, des restrictions qui sont imposées de façon précoce. On voit même des médecins conseiller de limiter l'alimentation des bébés. Docteur Jean-Michel Le Cerf, là, on va trop loin.
C'est dramatique, c'est catastrophique, bien sûr, il faut absolument pas. Au contraire, il faut rentrer dans une alimentation à nouveau où l'enfant va spontanément manger des aliments qu'il pourra gérer, on en parle beaucoup. Par contre, c'est vrai que mettre à disposition n'importe quoi aux enfants, ça ne va pas. Il faut aussi que le modèle alimentaire familial soit bon. Il faut aussi favoriser le jeu chez l'enfant, le mouvement, c'est essentiel. Mais surtout pas imposer des restrictions chez tous les enfants. Au contraire, un enfant petit a besoin de manger beaucoup de lipides, beaucoup de graisse, et donc c'est extrêmement mauvais. Par contre, le dépistage de l'obésité, parce que c'est une maladie qui peut exister chez l'enfant, est important. Et on peut se trouver confronté à deux situations. Soit c'est une obésité malheureusement génétique, il faudra accompagner psychologiquement ces enfants et ces familles, et pour l'instant on n'a pas toujours de solution. Et deuxième situation, il y a eu une négligence alimentaire, mais tout le monde est bien conscient que les choses peuvent être améliorées, et là on a d'excellents résultats chez les enfants, à condition de ne pas rentrer dans ce système de restriction, mais au contraire de changer les habitudes alimentaires familiales. C'est très réconfortant de s'occuper du surpoids chez l'enfant. Moi, je m'en suis beaucoup occupé et on est vraiment très heureux de prendre les choses tôt, mais de façon adaptée.
Voilà, cet échange s'achève. Merci beaucoup à vous, docteur Jean-Michel Le Cerf, d'être venu dans les studios de RFI. Je rappelle que vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. On va rappeler le titre de cet ouvrage que vous avez signé aux éditions Odile Jacob. À chacun son vrai poids, la santé avant tout. Et on peut signaler un dimanche prochain, le 6 mai, c'est la journée mondiale sans régime, ça existe. Manger bien sans se sentir coupable, choisir des activités physiques adaptées et se réconcilier avec son corps. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Sigrid Azeroual, Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'asthme. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.